Fuse FM en mode hors les murs. La Radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Les mercredis 5, jeudi 6 et vendredi 7 avril 2023, News FM s'installe au Prunier Sauvage de Grenoble pour la 5e édition de La démocratie en chantier.
Et bienvenue à vous si vous débarquez sur le 101.2, les amis. Bienvenue sur News FM. Comme l'a dit ce petit liner exceptionnel, nous sommes en direct du Prunier Sauvage pour l'événement intitulé Démocratie en chantier. Des ateliers, émissions de radio, table ronde, débat, spectacle. Il se passe plein de choses. Je suis toujours accompagné du directeur du Prunier Sauvage, Brahim Rajab, qui est avec nous. Salut, Brahim.
Salut, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici encore avec nous, présents. Aujourd'hui, nouvelle table ronde, nouvelle émission, nouveaux invités, Brahim, autour de la table. On est quand même bien gâtés aujourd'hui.
Ouais. Alors je rappelle donc Démocratie en chantier cette année, donc 3 jours pour parler des médias, avec en effet des ateliers autour de l'éducation aux médias, aux réseaux sociaux, donc des ateliers qui ont eu lieu en MJC, à l'école. Et des émissions de radio en direct. Et aujourd'hui, on parle de des politiques à l'heure des réseaux sociaux. Et on a l'immense plaisir d'accueillir Éric Piolle, maire de Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Marty, qui est enseignant-chercheur et co-directeur de l'école de journalisme de Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous, des jeunes étudiants en journalisme qui font partie de La Chance. Donc vous allez expliquer ce qu'est La Chance. Donc nous avons Blanche qui a 24 ans.
Bonjour.
Et Mathéo, 21 ans.
Bonjour.
Alors La Chance, qu'est-ce que c'est ?
Eh ben, La Chance, c'est une prépa aux écoles de journalisme qui est nationale. Donc là, on est dans l'antenne de Grenoble, on est 6. Et c'est une prépa qui est ouverte aux boursiers du supérieur et qui est engagée du coup pour la diversité dans les médias.
Super. Donc vous allez nous accompagner sur ces interviews. Vous avez préparé tout cela.
Oui.
Nous allons commencer avec Emmanuel Marty. Vous êtes chercheur, enseignant, prof.
Oui, parce qu'il faut lancer quand même un peu le travail qu'ils ont fait, Mathéo, Blanche et Alberto, qui est dans le public. Voilà, avec une petite série de micro-trottoirs, justement, qui vont nous aider à nous lancer pour cette table ronde. C'est parti.
J'ai 20 ans et je suis en L3 de psycho.
J'ai 20 ans aussi et je suis aussi en L3 de psychologie. Mes sources d'information, c'est principalement du coup les réseaux sociaux, parce que je regarde pas les infos.
Moi, c'est un peu pareil, c'est sur les réseaux sociaux, mais par exemple, pour ce qui se passe en ce moment avec les retraites et tout, je suis un peu perdue là-dedans et du coup, je cherche pas l'information parce que j'ai l'impression que de toute façon, il n'y aura pas d'information qui sera utile ou constructive. C'est juste de la politique ou des journalistes, des fois un peu orientés sur certaines chaînes ou quoi, bah, ça m'intéresse pas non plus de m'informer comme ça.
J'ai 19 ans, je suis en licence de lettres modernes. Moi, je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux avec Hugo Décrypte. Qui est journaliste sur Insta, YouTube, TikTok.
Du coup, j'ai 18 ans et je suis en lettres. Sur l'actualité, ça dépend. Je vais juste voir de temps en temps dans la barre Google pour voir. Après, avec mes parents aussi, on en discute un peu, mais pas tellement. Sur les réseaux, je trouve que c'est un peu trop... ils ont trop une opinion précise, ciblée.
Tu préfères les médias traditionnels ?
Oui, c'est ça.
Alors moi j'ai 23 ans et pour l'instant je suis sans emploi. Personnellement je m'informe beaucoup, je me renseigne principalement sur Twitter en vrai, hein, parce que l'information circule bien. Après voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes.
J'ai 26 ans, je suis à Bac plus 6, des journaux, genre Figaro, tout ça, bof quoi.
Ça te repousse les médias traditionnels ?
Ouais, les journaux du coin, généralement je vois à peu près qui fait ça. Et c'est plus rassurant que genre un Figaro ou un Le Monde où j'ai plus douté quand même de ce qu'ils disent parce que faut pas se mentir, maintenant il n'y a plus aucune confiance dans aucun média qui soit traditionnel. Et c'est pour ça que c'est bien aussi qu'on ait des vulgarisateurs genre Jean Massia par exemple, qui certes est un peu orienté, biaisé, la gauche, mais au moins pour un peu les teubés dans mon genre qui n'y connaissent pas grand chose en politique mais qui essayent de rester au courant de ce qui se passe, ça te rend le truc beaucoup plus digestible.
Les hommes politiques et les femmes politiques sur les réseaux sociaux, sur du coup TikTok, j'ai vu la chaîne d'Emmanuel Macron, j'ai vu la chaîne de Mélenchon. Il y a Marine Le Pen qui avait une chaîne. En soi, c'est un bon moyen d'essayer de toucher les jeunes, car il y a très peu de jeunes qui votent. Mais en même temps, ils essayent de s'approprier des codes. Ils sont pas eux. Donc des fois, ça matche pas.
Mais pour le coup, j'avais vu les premières vidéos de YouTube de Macron pour sa campagne en 2012. Et vraiment, tu voyais le sort de daron qui essaye d'avoir les codes. Tu sens vraiment que c'est pas naturel du tout et qu'il y a un conseiller derrière qui lui fait « Vas-y, dis ça comme ça, face cam comme ça. » Et ouais, un peu ridicule.
Moi, je trouve ça cool qu'il y en a qui se mettent un peu sur les réseaux parce que, vu que, comme on voit qu'il y en a qui s'informent principalement que sur les réseaux. Mais après, faut savoir prendre l'information un peu partout et pas prendre juste ce qu'on voit ou ce qui nous plaît, ce que voilà.
Mais aussi ceux qui se mettent sur Instagram, je me méfie beaucoup des informations parce qu'ils sont là pour plaire aux jeunes et pour donner des informations pour les jeunes et pour soit attractif et tout, pour nous plaire et que ça soit pas neutre. Et du coup, j'ai un peu du mal et du coup, je me base pas du tout là-dessus.
Ils ont un super média qui pourrait faire des super trucs avec, on voit très bien, genre Poutou qui lui fait ça bien, et bah, y a les dérives comme oh mon dieu, regardez tous tel autre politique, qui essayent en fait d'utiliser ça comme un moyen de lyncher publiquement et pas genre de prendre des questions du public, d'informer une masse générale qui ne va pas lire la presse.
Si c'est utilisé à bon escient, il n'y a pas de problème. Par exemple, Emmanuel Macron poste sur Instagram ses mesures en faveur de l'IVG. Je trouve que c'est une bonne chose car on ne nous parle pas assez de tout sur certaines sources d'information. Mais si c'est pour se ridiculiser comme Jean-Luc Mélenchon qui fait une chanson de Weshden pour attaquer Macron, c'est un jeu complètement ridicule et je trouve que ça décrédibilise la fonction politique.
C'est bon, on est de retour, Blanche. Vas-y.
Merci beaucoup. Donc ça, c'était des micro-trottoirs que j'ai réalisés à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Donc pour vous, monsieur le maire, qui êtes actif sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ces témoignages vous évoquent ?
On retrouve un peu toutes les réflexions qu'il y a. C'est que finalement, quelles sont les sources d'information ? Quelle est l'orientation politique des sources d'information ? Est-ce que c'est quel est le fake du vrai ? Est-ce qu'on est une marchandise pour les communicants ou pas ? Donc je trouve ça intéressant, ça pose bien comme toutes les questions qu'on se pose tous et toutes.
Alors, Mathéo.
Ouais, Éric Piolle, vous êtes radical et pragmatique. En tout cas, c'est ce que dit votre biographie sur les réseaux sociaux. Alors on sait l'importance des mots, d'autant plus du coup sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vous qui gérez votre communication politique ?
Alors il y a deux parties là-dedans. Ma communication politique, il faut qu'elle me ressemble. Donc la question de la sincérité est très forte. Là-dessus, évidemment que moi j'ai une idée de ce que je suis, de comment je veux raconter ça et au service de quel projet politique. Après la partie opérationnelle, c'est pas moi qui gère du tout. D'accord. Et pour être très clair, là, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui gère ça. D'abord parce que moi, je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc j'ai beau avoir, 75 000 abonnés sur Twitter et peut-être 10 000 sur Insta, mais en pratique, je n'y suis jamais, moi. C'est-à-dire que moi, ça n'est pas une source d'information pour moi et j'y passe absolument pas de temps. Parce que je considère que voilà, mon temps, c'est ma ressource, celle qui a le plus de valeur, et donc je ne passe pas de temps sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est-à-dire qu'on échange en parallèle sur « tiens, moi j'ai envie de communiquer là-dessus », lui il voit une opportunité parce qu'il est sur les réseaux en disant « tiens, il se passe ça, il faudrait peut-être que tu réagisses », et après on échange sur qu'est-ce qui est communiqué.
Et vous validez tout ce qui est posté.
Oui.
Vous avez le temps de le valider.
Oui.
De le
voir. Après, je ne tweete pas non plus. Mon avatar ne tweete pas 15 fois par jour. Il y a des gens qui ont plus ou moins un autre rapport. Je ne sais pas si je prends Marine Tondelier, qui était ma directrice de campagne pendant les primaires, qui est maintenant secrétaire nationale de LV. Elle est H24 sur les réseaux, elle tweet elle-même en live. Enfin, c'est un autre rapport au temps. Moi, je valide presque tout. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui peuvent paraître à mon équipe standard et donc ils vont le faire. Donc, je me rappelle notamment d'un truc rigolo, c'est que lors de la mort de Johnny Hallyday, ils m'ont fait tweeter un truc, un enchaînement. Ils ont dû me demander est-ce que tu es OK pour tweeter sur un match de l'idée. J'ai dit OK. Et donc, j'ai tweeté des morceaux de phrases. Un tweet qui était sympa, hein, mais j'ai jamais écouté Johnny Hallyday de ma vie, quoi. Et donc, je recevais plein d'SMS de mes potes, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est rigolo parce que du coup, j'ai écouté Johnny Hallyday après sa mort, à titre posthume, et je me suis dit, tiens, c'est sympa. Mais avant, j'avais jamais écouté. Voilà, donc, à part quelques trucs comme ça, ou sinon.
Jacques Chirac aussi. J'ai mort de Jacques Chirac.
Ouais. Dans la Chirac, j'ai dû valider le texte parce qu'il devait y avoir une sensibilité politique peut-être plus forte, mais voilà, donc ça donne parfois des trucs rigolos. Et puis, fut un temps où la personne qui écrivait pour moi sur les réseaux sociaux était quelqu'un qui faisait beaucoup de fautes d'orthographe. Alors que moi, je suis ultra, ultra maniaque sur orthographe. Donc, j'avais un retour de ma sœur, ma mère, qui me disait, ou des copains qui me disent, il y a une faute là. Je dis, ouais, ok, c'est vraiment... Comment tu peux faire des fautes comme ça? Je dis, calmos. Ouais.
En tout cas, juste, je voulais insister sur quelque chose. On vous a invité, monsieur le maire, parce qu'il y a une raison aussi. C'est que vous êtes le premier maire à être venu en fonction et à devoir... composer avec les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Donc, durant votre campagne, il y avait la présence des... ce qui n'était pas le cas pour les maires d'avant. Ouais. Donc, du coup, est-ce que vous avez anticipé ça? Est-ce que vous êtes entouré d'une équipe pour ça? Et comment vous avez vécu la première campagne?
Oui, là-dessus, il y a un regard politique. C'est-à-dire que moi, mon regard politique sur la communication, c'est dire que vous avez deux sources de grands champs de communication, de canaux pour vous informer. Un qui est lié sur la légitimité de celui qui a émis le son et l'autre qui est lié sur la proximité. Et donc ça, c'est de tout temps et dans l'histoire. Donc pour prendre un sujet, je sais pas, totalement décalé, j'adore l'histoire. Donc je sais pas, sur la construction, par exemple, de l'évangile. La construction de l'évangile se propage de personne en personne et à partir d'un champ de texte qui est absolument colossal, petit à petit, on en tire ce qui devient le dogme. Ça s'épure et ça s'épure parce qu'il y a des gens qui font référence, qui ont autorité et qui vont petit à petit épurer le signal. Et puis, il y a la légitimité. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, quand j'étais plus jeune, Le Monde avait une légitimité. Ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais on va dire que la source Le Monde était considérée comme bien documentée, relativement peu partisane, en essayant d'éclairer sur les enjeux, les différentes positions, etc. Ce pendant sur la légitimité a énormément faibli. Il affaiblit de par la construction des médias, et notamment la privatisation des médias au profit de quelques milliardaires. Donc à 8 milliardaires, ils contrôlent quasiment l'ensemble des médias privés français. Donc ça veut dire que c'est leur imaginaire qui se projette à travers leurs médias. On le sent bien dans des cas extrêmes sur CNews ou BFM, mais en réalité c'est dans tout. Les exemples sont multiples d'interventions directes. Et j'ai des exemples, moi, personnels d'intervention directe de ces milliardaires dans la ligne éditoriale de leurs journaux. Donc évidemment, ça discrédite, pour une partie de la population en tout cas, ça discrédite cette légitimité qui n'est plus pertinente. Et la proximité, qui était toujours le cas. Moi, si je lis énormément, les bouquins que je lis... Il m'arrive par des gens et je les lis parce que voilà, un copain qui m'a dit « Lis ça, c'est super, tu vas aimer » ou « Te connaissant, pouf, c'est un truc que tu connais pas, au contraire, il faudrait que tu découvres ». Donc il y a plein de choses que j'ai, comme pour la musique, quoi. La musique que j'écoute, si c'était que dans ma bulle, moi je continuerais à écouter Supertramp et Dire Straits, quoi, pour faire simple. Je suis pas hyper changeant de nature. Et si j'écoute plein de trucs nouveaux, c'est parce que j'ai ou bien mes enfants ou bien des copains qui me disent « Tiens, ils t'envoient un truc et t'écoutes et tu découvres, ou t'emmène à un concert et tu découvres, et pouf ». Et donc ce volant de proximité est accéléré, évidemment, par les réseaux sociaux, de par leur construction même, parce que ça crée des bulles où on vous envoie les informations que vous aimez bien, et donc ça crée des sphères. Et donc, quand on a pensé la question de 2014, évidemment, la question de ce contact direct et la dimension virale correspondait bien à cette idée de... En fait, il y a un espoir qui naît, et cet espoir, il se répand de façon virale. Et il se répand par le bouche à oreille, il se répand par ce que je faisais moi, donc notamment les réunions d'appartements. J'ai fait des centaines de réunions d'appartements en 2014 et en 2020, mais il se répand aussi par les réseaux sociaux.
Mathéo.
Alors, vous l'avez dit, vous n'êtes pas H24 sur Twitter, mais vous communiquez en général moins que lorsque vous étiez en campagne. Est-ce qu'en exercice, vous considérez que c'est moins important de communiquer ?
Non. Là, c'est juste une question de d'intensité. Mais non, ça ne s'adresse pas après au même public. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les analyses qui sont faites de mes réseaux sociaux que, je sais pas, ma page Facebook, ça va être très grenoblois. C'est-à-dire que les gens qui la suivent, c'est des gens qui viennent chercher de l'info locale, qui, voilà, qui regardent ce qui se passe. Et c'est un moyen, c'est vrai, de donner des informations plus positives que ce qui peut sortir, où on va vous dire, tiens, il y a un problème là, un tas de déchets ici, quelqu'un qui s'est fait agresser là. Donc ça permet d'amener des projets et de, que les gens soient un peu au courant en fonction de leur centre d'intérêt. Ma page Twitter, mon compte Twitter, il est plutôt à vocation nationale. Et d'ailleurs, il y a une des dimensions de la communication qui est que pour les médias, en fait, leur source de filtrage est elle-même sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je communique aussi pour que les médias standards me repèrent et sur des sujets viennent me chercher. Donc, sur les autoroutes, par exemple, ben, c'est le fait que je communique de façon continue sur le scandale de la privatisation des autoroutes qui fait que quand ils cherchent quelqu'un pour parler autoroute, ils disent « Tiens, j'ai vu le petit piole là-bas au bout, il raconte un truc sur l'autoroute. »
Ok.
Question de Blanche.
Oui, du coup, moi, j'ai parlé avec pas mal de jeunes à Chambéry et ce qui ressortait le plus, c'était Jean-Luc Mélenchon. En fait, c'est le plus suivi, c'est un des pionniers de l'usage des réseaux sociaux en campagne. Il a des conseillers en communication qui sont très jeunes, qui sont jugés efficaces. Alors, j'ai une question, est-ce que pour vous, c'est un modèle ou une inspiration en matière de communication sur les réseaux sociaux ?
Ça, il faudrait demander ça à mon équipe, parce que moi, comme je ne regarde pas ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à me dire est-ce que c'est bien ou pas. Conceptuellement, ce qui est intéressant dans la stratégie de Jean-Luc, c'est qu'il se dit il va toucher directement les gens et ça devient une source d'information en lui-même. Donc ça, ça peut arriver. Nous, pendant le Covid, ben, je faisais un Facebook Live d'une heure toutes les semaines et ce Facebook Live était devenu une source d'information en elle-même. Voilà. Après, on n'a pas tout à fait le même caractère. Donc lui, il a à la fois des qualités de trimain qui sont, bon, c'est sans doute le meilleur du plateau, toutes couleurs politiques confondues en la matière. Et d'un autre côté, il a ce côté provocateur que moi je n'ai pas. Donc il faut que chacun va avec son caractère. En termes de posture, c'est clairement ni mon caractère, ni ma vision politique. Quand on parle de radicalité, moi c'est la radicalité sur le fond et le pragmatisme parce que bah, je suis dans l'exercice du pouvoir, à la différence de Jean-Luc, donc son discours est forcément différent. Parce que, et par contre, en termes de posture, je ne cherche pas une posture qui soit clivante. Parfois, ça devient clivant parce que de ce que je fais, mais c'est pas intentionnellement. Je me dis pas, je vais faire du buzz. J'ai fait des primaires de l'écologie que j'ai perdu dans un mouchoir de poche. Hein. On était quatre quarts et moi j'étais la mauvaise place du quart. J'avais discuté avec les communicants de Jean-Luc de sa première campagne présidentielle, donc 2011-2012. Il y avait clairement une stratégie de buzz. Donc c'était faire parler en bien ou en mal, mais faire parler. Et ça permet après coup que les gens, finalement, ils oublient ce qu'ils ont trouvé ultra provocateur, machin. Ils ont juste... Vous êtes rentré dans la photo, quoi. Et donc c'est ça qui lui a permis d'être entendu sur d'autres sujets. Et bah, ça, c'est une question qu'on s'est posée. Peut-être qu'effectivement, il y a des moments où il faut faire... Du buzz pour le buzz, mais bon, c'est pas ma nature profonde. Mais parfois, ça marche comme ça. Enfin, le burkini, typiquement, le but n'est pas de faire du buzz, c'est que je suis convaincu que voilà, c'est une discrimination à laver, mais de fait, ou la pub. La pub en l'automne 2014, le but n'est pas de faire du buzz. On veut réduire la publicité parce qu'on pense que ça colonise nos cerveaux. Mais tout d'un coup, ça fait un buzz international. C'est juste les conséquences du message qu'on porte. Donc dans ces cas-là, c'est différent. Mais c'est sûr que j'ai été plus connu, je pense, pour le burkini que pour ma campagne à la primaire de l'écologie, quoi. Enfin, en tout cas, je vois que je suis reconnu partout en France avec un sceau depuis ça.
Blanche.
Mais justement, on parle de buzz et de bad buzz. C'est une technique assez courante en politique aujourd'hui. On pourrait par exemple aussi évoquer votre collègue Sandrine Rousseau, l'affaire de la bousculade ou celle du barbecue par exemple. Et ça nous amène à nous poser une question quand même, peut-être aussi à une question à poser à Emmanuel Marty. Est-ce que c'est possible qu'un homme et une femme politique existent sur les réseaux sociaux sans provoquer ?
Sommes-nous condamnés au buzz ?
Alors moi, je ne suis pas spécialiste de communication politique, donc je me garderai de répondre sur cette question. Pour ce qui est de la question des médias, moi, ce qui me frappe et qui est rappelé dans le micro-trottoir, c'est la place centrale qu'occupent aujourd'hui ce qu'on appelle les infomédias, hein, donc enfin, on va dire les réseaux sociaux. Infomédiaire au sens intermédiaire de l'information, donc Facebook, Twitter, Instagram, Google via Google Actu dans une certaine mesure. La place qu'occupent ces acteurs dans l'économie des médias, en fait, ce sont les principales portes d'entrée vers l'information. Et les médias, les journalistes ne peuvent plus faire comme si ça n'existait pas. Donc, sur le plan économique, ils sont extrêmement dépendants de ces plateformes-là, à divers égards. Je pourrais développer si vous voulez. Dans la manière d'écrire aussi, les stratégies de titraille, effectivement, dans les outils qui accompagnent la pratique même du journalisme, et puis dans les formats. On va dans les formats qui sont mis en place pour aller conquérir ces audiences sur les réseaux. Mais cette place centrale des infomédiaires, des réseaux, elle a une conséquence qui complique quand même considérablement le travail des journalistes et en partie peut-être le travail du personnel politique, qui est la ligne de conduite à tenir entre des normes professionnelles ou déontologiques qui ont trait au bien commun, à une responsabilité. Les élus ou les candidats à une élection ont une responsabilité. Les journalistes ont une responsabilité également parce qu'ils sont là pour répondre à, on va dire, l'intérêt général. Alors avec tout ce que ça pose comme question de qui définit ce qu'est l'intérêt général. Mais tenir cette ligne de conduite-là entre donc l'intérêt général et puis la nécessité, on va dire, d'un retour sur investissement, d'un bénéfice, d'un gain, parce que pour ce qui concerne en tout cas les médias, ce sont pour la plupart, à exception faite de l'audiovisuel public peut-être, mais ce sont des industries marchandes qui doivent effectivement vendre, qui sont soumises à des rationalités industrielles, capitalistes, de rentabilité, même sans aller du côté des milliardaires, même si effectivement la question de la concentration économique des médias est un vrai sujet. Et pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film Media Crash, je le recommande vivement, il fait bien le tour de la question. Mais une sorte de confusion chez tout un chacun sur la notion de source. J'entendais dans le micro-trottoir tout à l'heure, je m'informe par Twitter, mais Twitter c'est pas un média, Facebook c'est pas un média, Instagram c'est pas un média, ce sont les portes d'entrée. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les fils Twitter, Facebook, Instagram des uns et des autres? Ces réseaux-là, ils sont dans des logiques donc socio-affinitaires. Eric Piolle parlait un peu des bulles de filtre, hein, c'est-à-dire le fait que de toute façon, naturellement, on a tendance à aller vers des informations et des gens qui nous ressemblent, avec lesquels on est d'accord. Ça, c'est une tendance naturelle de l'humain. Mais quand elle est armée algorithmiquement, ça nous emmène vers finalement une information designée, personnalisée, dans laquelle on n'est plus du tout confronté à l'altérité. Et ça peut être un véritable problème. Et dans cet univers-là, et je m'arrêterai là pour le moment, on ne fait pas trop la différence au quotidien entre des médias, des amis ou des connaissances, des personnalités politiques. C'est-à-dire, il y a des logiques conversationnelles dans les réseaux qui s'installent. On poste des choses, on répond, on commente, on partage, mais la déclaration d'un tel est mise sur le même plan avec un contenu journalistique qui répond, encore une fois, à des normes, à une déontologie, etc. etc. Et cette différence-là n'est pas forcément faite au quotidien quand on est, quand on scrolle sur son fil, etc., et où tout ça se côtoie. Et je crois que c'est assez symptomatique l'espèce de phare dans cette brume là, c'est Hugo Décrypte et Jean Massier, c'est-à-dire des personnes qui incarnent. Voilà, on remet de l'humain, on remet des personnes qui incarnent un peu l'information et qui vont constituer des points de repère parce que ah, c'est une personne, je l'ai identifiée, je vais lui faire confiance. Je sais qu'il a une forme de subjectivité, mais que je reconnais. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression que ces influenceurs ou décrypteurs ou exégètes de l'information, ils jouent le rôle que jouaient tout simplement les médias avant, dans un monde avant les réseaux sociaux numériques, où ben, Libération était un repère parce qu'on a identifié quelles étaient ses valeurs, ou alors Le Figaro, Le Monde, L'Humanité, bref, etc. Et là, ce sont des personnes qui incarnent ces repères, et on va aller vers ces personnes, là où finalement la parole des médias, des politiques, de nos proches est quand même mêlée dans ces réseaux sociaux numériques, quoi.
Alors, suite au récent échauffement à l'Assemblée, les réseaux ont été le théâtre de passes d'armes assez virulentes entre députés. La recherche de la petite phrase, de la publication à impact semble être au cœur de la communication de nombreux élus. Est-ce que pour vous deux, en tant qu'observateurs, vous pensez que ça peut impacter le travail parlementaire ?
Bon, là, le travail parlementaire, c'est un peu n'importe quoi, donc... Est-ce que ça peut l'impacter ? Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, c'est une manifestation du n'importe quoi, pour moi.
C'est pas une cause ?
Non. C'est pas une cause, non. La cause, c'est qu'on a un problème démocratique majeur, qui est que plus ça va, plus les gens qui votent pour la personne qui est élue, en l'occurrence Macron, le président de la République, pardon... vote non pas pour ses idées, mais pour faire barrage ou ne pas faire barrage à l'extrême droite. Donc, à partir de là, face à une chambre qui, en pratique, n'a pas de majorité comme jamais il y en a eu, hein, parce que même la majorité relative de Rocard, c'était une majorité relative à quelques députés près qui lui manquaient. Là, c'est un gouffre. En pratique, il n'y a pas de capacité à faire passer... des réformes autrement qu'en faisant des jeux politiciens pour le gouvernement. On voit bien que les retraites, c'est qu'ils ne vont même pas faire voter la loi sur les retraites, ils préfèrent juste constater le fait qu'il n'y a pas de majorité contre eux. C'est qu'il ne peut pas, évidemment, s'installer une majorité contre eux. Et ce choix délibéré de positionner au même plan extrême gauche et extrême droite, donc de dire Mélenchon, qui était quand même sénateur socialiste, ministre socialiste, pendant je ne sais pas combien de temps, qui a un programme qui est beaucoup moins à gauche que celui de Mitterrand en 81, il faut relire le programme des 110 propositions de Mitterrand en 81, beaucoup plus à gauche que le programme de Mélenchon maintenant. Mais le fait de dire, en fait, c'est pareil, c'est sur le même plan, et en fait, nous, on est au milieu, empêche tout débat démocratique. Et donc, sur une dimension de polémique parlementaire qui a toujours eu lieu, parce que l'Assemblée a toujours été une espèce de foire, c'est un peu étonnant, mais c'est une foire, là, ça a atteint des niveaux qui dépassent l'entendement. De la part de tout le monde. C'est-à-dire que le gouvernement, si vous voyez, c'était à je ne sais plus quelle occasion là, qu'ils ont failli même en venir aux mains, là, mais c'était le feu, ils appellent Olivier Véran en soutien, il arrive, poum, allez, il va me balancer un peu d'huile sur le feu, et c'est reparti. Et moi, pour avoir des copains et des copines qui sont députés là, ils disent qu'ils se retrouvent dans cette ambiance, qui est une ambiance totalement hystérique, à hurler, alors que ce n'est pas leur caractère. Mais il y a une violence symbolique. Qui est une impasse. Pour moi, il devrait juste là faire voter la proportionnelle, dissoudre et relancer des élections sur la base de la proportionnelle, c'est-à-dire sur la base de la nécessité de faire émerger un contrat de mandature. Il ne fait pas ça, donc il y a une impasse totale.
Est-ce que justement, vous dites, c'est l'Assemblée, c'est une foire, ça l'a toujours été. Mais est-ce que ce fait de savoir qu'après, il y aura des vidéos publiées sur les réseaux où on peut avoir un momentum, en fait, où si on fait une bonne élocution, on dit la bonne phrase, est-ce que finalement, ce n'est pas dans un coin de la tête des parlementaires et que ça met justement l'huile de, sur le feu de, du débat. Là, il y a quand même une stratégie.
Pour moi, non. Parce que quand ils se mettent à hurler, ils hurlent tous, quoi. Donc c'est pas la petite phrase. Et la petite phrase, elle a toujours été là. Si vous regardez même le... bon, y a un film que j'aime bien, là, le film avec Jean Gabin, là, le président. Il y a un collecteur de petites phrases rigolotes dans leurs interventions. Et pourtant, là, c'est bien, bien, bien avant les réseaux sociaux. Donc de toute façon, dans l'art oratoire de la politique, que ce soit sous les regards des réseaux sociaux ou pas, il y a la petite phrase. Ou bien qui est pensée, ou bien pas.
Qui n'avait pas la même...
Qui n'avait pas la même résonance.
La résonance.
Qui n'avait pas la même résonance. Mais donc ça marche quand François Ruffin vient avec son maillot de foot ou que la nouvelle députée, Madame Kéké, dit, en fait, qui c'est qui a bossé dans l'Assemblée ? Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Ou qu'il y a le mec du RN qui dit, rentrez chez vous en Afrique, ou je ne sais plus quelle était la phrase, etc. Mais... Donc là, il y a des petits trucs, mais le reste, les petites phrases ont toujours eu lieu, quoi.
Monsieur Marty, vous vouliez réagir.
Oui, effectivement, la politique est en partie un art oratoire, rhétorique, donc l'art de la formule, qualité de tribun, la petite phrase, c'est propre à l'exercice du politique. Mais quand même, je crois que... j'évoquais tout à l'heure la place centrale des infomédias. Je crois que de ce point de vue-là aussi, ils ont quand même modifié un certain nombre de choses pour les médias comme pour les élus, et notamment dans le contexte parlementaire. C'est que ces outils-là, je pense notamment à Instagram, mais aussi Twitter et Facebook sans doute également, même si ça c'est... c'est sans doute un peu différent, mais sont devenus des moules éditoriaux. C'est-à-dire que pour que son message passe, il faut, et ça transparaissait aussi dans le micro-trottoir, il faut coller au code, coller à la culture. Alors, à la culture, mais les codes, c'est pas simplement la culture, c'est aussi les codes presque techniques, algorithmiques. C'est-à-dire il y a les cultures d'usage et puis il y a les cultures techniques. Quand on voit... un certain nombre de parlementaires sur Instagram avec des montages cut, avec une petite musique derrière et qui fait monter un peu. J'ai l'impression d'être devant Street Fighter, pardon pour la référence vidéoludique un peu datée, mais voilà, vraiment dans un affrontement scénarisé avec une BO, quelque chose de très très... et ça, cette culture un peu du clash, on va dire... même si elle a toujours existé, je crois qu'elle est quand même... en tout cas, ceux qui veulent exister sur ces espaces-là sont tenus de se plier à ces codes-là. Et c'est vrai pour les politiques, c'est vrai pour les médias aussi, hein, c'est-à-dire d'inventer d'inventer ou de répliquer avec plus ou moins de succès. Hein, on peut se souvenir du fail de l'arrivée de BFM sur Twitch, par exemple. Enfin, voilà. Sont tenus d'épouser des codes qui ne sont pas forcément les leurs, dans lesquels ils ne sont pas forcément à l'aise, dans lesquels ils ne sont pas nécessairement compétents. Mais ils sont obligés d'épouser ces codes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, un parlementaire comme un journaliste qui veut, à un moment donné, exister sur les réseaux, doit se plier à ce moule éditorial qu'est la story Insta, qu'est le live sur Facebook, etc. etc. Et ça pèse quand même sur la manière, je pense, dont les interventions sont pensées, formalisées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un député prend la parole, il sait qu'il ne parle pas uniquement à ses collègues de l'hémicycle, il parle aussi et peut-être d'abord... à sa communauté sur les réseaux sociaux numériques. Et ça change quand même la nature des prises de parole et peut-être sa forme.
Ouais. Bon, enfin, je ne sais pas quelle est la part des vidéos qui sortent de l'Assemblée et qui buzzent par rapport aux autres, mais je n'ai pas l'impression qu'on soit inondé quand même de... Je pense que ça structure nos prises de parole de façon générale, mais celles à l'intérieur de l'Assemblée, puisque là on parle du débat parlementaire, On n'a pas l'impression d'être... autant on a l'impression d'être inondé de vidéos, autant le ratio entre celles qu'on reçoit et celles qui sont issues de l'Assemblée nationale me semble relativement... Je n'ai pas l'impression que la première source soit les débats à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Quoi.
Blanche, une réaction ?
Oui, du coup, outre Jean-Luc Mélenchon, justement, ce moule éditorial dont vous parlez, il favorise aussi l'extrême droite, qui a une communauté impressionnante sur les réseaux sociaux. On parle parfois de la fachosphère. Est-ce que la parole politique sur les réseaux sociaux, elle favorise surtout les extrêmes ?
Alors, il y a une logique algorithmique qui est celle sur les réseaux, qui est celle de l'engagement. L'engagement au sens ni politique ni intellectuel du terme, au sens marketing du terme, hein, c'est-à-dire les commentaires, les likes, les partages, etc. etc. L'extrême droite a une certaine culture du scandale, du coup médiatique, ça bien avant les réseaux, mais disons que le filtre médiatique, justement, journalistique, permettait jusqu'avant l'avènement des réseaux, dans une certaine mesure, d'amoindrir peut-être ces tentatives de scandale, de coup médiatique. Là, en désintermédiant c'est-à-dire les réseaux permettent une expression directe, ça a sans doute favorisé, avec cette logique algorithmique, parce que finalement, une déclaration scandaleuse, fausse, outrancière, etc., elle est destinée à quoi ? À faire réagir. Et quand ce qui met en avant, sur une base algorithmique, les messages, c'est précisément les réactions qu'elles suscitent, ça marche assez bien, on va dire. Cette stratégie-là, sur les réseaux, a plutôt tendance à fonctionner. Et d'autant plus qu'il y a un certain nombre de médias qui vont... prendre le relais et jouer sur une sorte de zone grise entre cette culture du clash, du buzz, du scandale et une forme de crédit journalistique, de légitimité journalistique. Je pense à un acteur sur lequel je travaille avec deux collègues, Alan Wackrat et Jérôme Pacouré, il y a quelque temps. Je pense à Valeurs Actuelles, et notamment à la manière dont Valeurs Actuelles, avec sa chaîne YouTube VA+, joue un peu sur ces deux tableaux-là, c'est-à-dire sur les réseaux, le scandale, le buzz, on fait venir Papacito et je ne sais pas qui, et on joue vraiment sur cette culture du scandale, du buzz, etc. Et puis, de l'autre côté... On a la carte de presse, on a invité sur des plateaux télé, notamment sur les télés de Vincent Bolloré, et là je suis d'accord qu'il y a un vrai problème de concentration des médias et d'actionnariat des médias et de ligne éditoriale impulsée par l'actionnaire. Je veux dire, là c'est indéniable, mais ça repousse... un peu les limites du dicible ou de l'indicible, de ce qui a droit de cité dans l'espace médiatique, dans l'espace public. Là-dessus, les réseaux ont certainement effectivement favorisé une forme de polarisation idéologique ou peut-être d'appauvrissement finalement des termes du débat aussi. Voilà.
Mathéo.
Ouais. Alors, Emmanuel Marty, vous parlez de désintermédiation et c'est hyper intéressant parce qu'on a l'impression d'insister à un moment particulier où les hommes et les femmes politiques boudent certains médias traditionnels et le contradictoire des journalistes parce que les réseaux sociaux, ça permet de supprimer justement tous les intermédiaires entre le peuple et les élus. Alors Éric Piolle, est-ce que pour vous, la communication sur les réseaux sociaux, ce n'est pas aussi un moyen de contourner les journalistes ?
De contourner, non. Je pense qu'on cherche à faire quand même des médias. Mais ça permet d'émettre un son qui parfois, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, va être repris par les médias et donc va être aussi un hameçon pour les médias. Et donc là-dessus, y a effectivement Enfin, je pense qu'il y a une zone grise qui va grandir quand même par rapport à ça, parce que les trolls qui existaient avant, bon, ça faisait sourire, mais maintenant c'est organisé. Les dimensions géopolitiques de la déstabilisation des pays, on l'a vu au moment des élections de l'élection de Trump aux États-Unis, mais on va le voir de plus en plus. Et puis va arriver là les, quand on voit les deepfakes, les vidéos là. Deepfake, c'est-à-dire que bientôt, on pourra mettre n'importe qui en scène sur n'importe quoi. Et donc, aller démonter ça va être extrêmement compliqué. Donc, ça fragilise forcément la démocratie. C'était cette ultra-technologisation de nos médias fragilise la démocratie. Et nous fait oublier des principes de base. Mais dans les principes de base, il y a cultiver l'esprit critique, hein, c'est-à-dire lire des sources de différents points de vue. Hein, et donc moi, je lis le Figaro tous les jours. On peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut lire le Figaro mais en fait, je lis le Figaro parce que je me dis que j'ai envie, ou les Échos, en plus des journaux que je lis peut-être avec plus d'affinité politique, parce que je vais chercher d'autres points de vue aussi. Donc ce développement de l'esprit critique, il est important. Et c'est aussi pour ça, hein, dans les relations à la presse sont dans les trois pages qui concernent l'avenir, qui sont dans le CNR, le programme du Conseil de la Résistance. Il est écrit, hein, qu'il faut protéger la liberté de la presse des intérêts politiques et des intérêts financiers. Bon, on voit qu'on n'y est plus du tout. Alors, des intérêts politiques, peut-être, directs, en tout cas du pouvoir, c'est sûr que le... et encore, hein, mais des intérêts financiers, pas du tout. Et le croisement des deux peut permettre... Bah, là, on a la série Pif Gadget, Playboy... Enfin, bon, on voit bien qu'il y a une espèce de mélange qui est, dans lequel le pouvoir joue, avec lequel le pouvoir joue aussi. Tout ça n'augure rien de bon, et je pense qu'on ferait bien d'investir massivement dans l'éducation populaire et le développement de l'esprit critique, parce que c'est, voilà, ce que nous cherchons, c'est être des êtres émancipés, hein. C'est pas juste des tubes digestifs qu'on trimballe d'un bout à l'autre en essayant de pousser les pulsions consommatrices ou les pulsions grégaires les pires que l'on puisse avoir.
J'ai une question un peu directe, mais existe-t-il un avenir pour la presse politique non partisane ? Si elle existe, Emmanuel Martin.
Oui, je crois. Non partisane, et pour autant, j'ai un peu de mal avec la notion de neutralité que j'ai entendue aussi dans le micro-trottoir qui revient souvent. Je crois que pour être journaliste, il faut être engagé. Pas nécessairement engagé de façon partisane. Il faut avoir des convictions et il faut essayer de les servir. Ces convictions, elles peuvent être attachées à des valeurs politiques. Je crois que ce qui est important, c'est d'être honnête, en fait. D'être honnête, de dire d'où on parle et de ne pas masquer un certain nombre d'engagement, de proximité, d'intérêt, vraiment. Oui, je crois qu'il y a un certain nombre de médias qui existent, qui perdurent, qui sont certes à la marge, qui ne sont pas des médias mainstream. Alors, je crache pas non plus sur l'ensemble des médias mainstream, hein, ce serait idiot, mais il y a des médias à la marge. Je peux penser à Reporters, à Street Press, il y a un certain nombre de médias qui prennent le parti d'essayer de renouer un contact direct, et quand je dis contact, c'est aussi transaction financière directe avec leur public. Et je voudrais insister sur un point. On a la critique facile vis-à-vis des médias, vis-à-vis des journalistes. Je crois que les médias, c'est un peu comme les élus, on a ce qu'on mérite. Et donc, si on veut des médias de qualité, il faut les financer, il faut les soutenir. Il y a plein d'initiatives qui existent, il y a plein de médias indépendants, il y a plein de médias qu'on peut qualifier d'alternatifs, ou en tout cas qui sont des médias engagés, pas partisans, hein, mais des médias qui sont attachés à des valeurs, qui les défendent, qui ne s'en cachent pas. Qui sont dans une forme de sincérité, et c'est pas parce qu'on est engagé, y compris politiquement, qu'on est un média d'opinion. On peut prendre le cas de Mediapart, qui cache pas son engagement à gauche et qui fait un travail factuellement, d'enquête. C'est des faits. Ils font pas de, c'est pas les éditorialistes de tel ou tel plateau télé. Ils font du travail journalistique, de terrain, sérieux, déontologique, avec des normes, avec du recoupement des sources. Avec des, mais c'est un journalisme engagé. Et je crois que bon, cette identité éditoriale-là, elle a fait des petits en France, dans un certain nombre de médias locaux, nationaux. Et je pense qu'il faut encourager ce journalisme-là, surtout dans une situation où, encore une fois, la concentration économique fait que ce n'est pas les plus visibles. Et c'est de notre responsabilité, quand je dis notre responsabilité collective quoi, de citoyens, de soutenir cette information indépendante-là.
Juste une petite coupure, on va devoir libérer monsieur Piolle, maire de Grenoble, pour des impératifs. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci
autour
à vous.
De cette
merci.
Table.
Bonne
suite. Voilà. Merci
alors,
beaucoup.
J'espère que Blanche n'avait pas une question pour
voilà,
monsieur.
J'avais une dernière question pour monsieur le maire. Merci beaucoup. Simplement, au regard de l'abstention qu'il y a eu des jeunes aux élections présidentielles, dernières élections, est-ce qu'on ne peut pas se dire que les réseaux sociaux. Bon, ça n'a pas vraiment engagé la participation des jeunes en politique. Est-ce que vous, en tant qu'élu, vous pensez à d'autres moyens pour s'adresser aux jeunes aujourd'hui ?
Je suis preneur d'idées là-dessus. Je crois qu'on en est tous là. Quand on voit 85% de l'abstention des jeunes aux dernières élections, c'est absolument hallucinant. Ce qui fait qu'on a un vote censitaire, en fait. Hein. C'est que ceux qui font la démocratie en France, hein, qui choisissent qui va au pouvoir, sont des personnes qui sont nettement plus âgées que le pays et avec un patrimoine nettement plus élevé que la moyenne du pays. Donc on se retrouve de fait dans ce qu'on peut appeler un vote censitaire, comme du temps des Romains. On découpe la population en classes, mais c'est les classes les plus hautes qui en fait décident et ont la majorité elles toutes seules. Donc là-dessus, nous avons un vrai problème. Donc moi, j'avais proposé des choses pendant ma campagne des primaires. Avoir d'abord un scrutin proportionnel à l'Assemblée qui permette aux gens de dire que ils vont être représentés en fonction du vote, qu'ils n'aient pas l'impression que leur vote soit gâché, puisque là, en pratique, il y a plein d'endroits où le vote est juste gâché. C'est extrême aux États-Unis, mais c'est pareil en France, hein, ça se marque de plus en plus. C'est donner le vote dès 16 ans, donc recommencer ce travail d'éducation populaire. À un moment, on a peut-être, on est dans une phase où on a encore un peu le temps, on est peut-être moins tourné vers plein d'autres problématiques d'enseignement supérieur, de rapport à la famille, de rapport au boulot, etc. C'est de forcer sur les listes à avoir un candidat de moins de 30 ans toutes les quatre personnes. Puisque là, enfin, non seulement ceux qui votent, c'est un vote censitaire de personnes âgées avec du patrimoine, mais ceux qui sont au pouvoir, la dimension patrimoniale est encore pire. C'est-à-dire que, hein, le vote censitaire, c'est ça. Ça a été en France jusqu'en 48. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait avoir payé un certain... Le sens, c'est ça. Hein. Vous avez le droit de voter si vous payez un certain volume d'impôts, et vous aviez le droit d'être élu si vous payez encore plus d'impôts. Donc c'est ça, et donc on se retrouve pratiquement en ça, surtout avec l'arrivée de la Macronie au pouvoir, puisque c'est vraiment on a perdu, il y a une consanguinité sociale encore plus forte que d'habitude à l'Assemblée, donc ça c'est un problème, donc avoir un candidat tous les quatre, c'est pas purement théorique, hein, ça se faisait les élections municipales à Sfax, alors là il se trouve que la situation en Tunisie a fait qu'ils viennent de balayer les élections, les municipalités. Mais c'était ça qu'ils faisaient. Donc un tous les quatre avait moins de 30 ans, ce qui est le cas en pratique sur notre liste. Mais ça veut dire déjà qu'on vous filait le pouvoir un peu plus, ça ressemble un peu plus à la population, et notamment à ceux qui ont des intérêts futurs. Cette notion de temps étant de plus en plus importante, parce qu'avant on était sur des combats sociaux. Donc finalement, que vous obteniez des droits sociaux aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, une fois que vous les avez, vous vous en foutez. Mais là, il y a un petit calendrier, c'est le fait que les émissions de carbone, le climat se dérègle. Donc la notion de temps devient beaucoup plus importante. Et donc on pourrait imaginer, par exemple, que le vote des jeunes compte double. Pourquoi pas ? Puisque notre rapport au temps, c'est ça qui est important, et que finalement, aujourd'hui, le pays, les décisions politiques du pays sont choisies par des gens qui ne vont pas mourir du réchauffement climatique.
Alors, ça n'empêche pas qu'il soit sensible. Mais pour finir par une boutade, après je m'échappe parce que je suis vraiment en retard, mais quand j'ai des octogénaires qui viennent me voir à Grenoble pour me parler de pollution de l'air ou de problèmes de pesticides dans l'alimentation, je suis super content parce que je me dis qu'ils sont super mobilisés. Mais j'ai toujours un petit message, j'ai un humour extrêmement caustique que je ne peux absolument pas dévoiler en public, mais j'ai toujours un petit message qui me dit en fait, dans ma tête, je dis détendez-vous, c'est pas ça qui va vous tuer. Quoi. C'est, quand on a dépassé les 80 ans, a priori, c'est pas la pollution de l'air ou une alimentation bourrée de pesticides avec trop de viande qui va changer quelque chose à l'affaire. Ils seront peut-être centenaires quand même ou pas, mais voilà. Bon, pour parler d'autres idées, je pense que donner que le vote des jeunes compte plus, c'est pas aberrant. Donc qu'on fasse un vote censitaire, mais à l'envers, se dire qu'est-ce qui est important pour nous, faire durer la cité. C'est a priori, ça s'adresse plutôt à vous qu'à moi, même si pour moi, bah, ça y est, c'est très concret. Hein. J'ai 50 ans, j'ai passé la moitié de ma vie au moins. J'espère que la moitié de ma vie, mais ça veut dire que je vois bien que l'impact du réchauffement climatique est à l'échelle de ma vie et à l'échelle de mes enfants encore plus. Donc il existe plein d'autres façons de faire pour que les gens qui viennent voter, s'ils ne viennent pas voter, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas la politique, c'est juste qu'ils ont l'impression de pisser dans un violon. Et on peut difficilement leur dire non, votre vote a une importance particulière. Parce que voilà, c'est pour reprendre ce qui s'est passé en 2022 et un mot que j'avais eu le soir sur France Info qui a fait... qui a prospéré, on en a marre des décastors et on est fatigué, mais on fait barrage. Voilà. Et donc, effectivement, plus ça va, plus on fait des castors. Et bon, les castors, il y en a de moins en moins qui font des barrages. Donc, il faut changer les règles du jeu. Et je pense qu'on gagnerait à changer les règles du jeu pour que le vote, notamment des jeunes et de ceux qui ont moins de patrimoine, compte dans la société. Et donc, ça permette de rééquilibrer et de bousculer l'ordre social.
Éric Piolle, merci d'avoir accepté cet échange avec nos étudiants journalistes. On va vous permettre de nous quitter avec un morceau de Public Enemy, Don't Believe Hype, avant d'accueillir la compagnie Aya Théâtre qu'on va recevoir ce soir pour un spectacle qui est dans le ton, là, puisque c'est Madame, Monsieur, Bonsoir, un spectacle sur le journalisme, sur le métier de journaliste. Alors, mais pour l'instant, on s'écoute Public Enemy.
Here's what I want you all to do for me. Bang! Caught you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the road below the level, cause I'm living low next to the base.
Come on!
Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be their friend guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist, priest, a teacher.
Cause some they never had this.
Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome, a public enemy. Used, abused, without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news.
Don't believe the hype. Don't believe the hype.
Was the start of my last jam, so here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, he'll tell me that you understand until you hear the man. They'll book up the new school rap game. Writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers of the same mind, unblind. Caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling. So claiming that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya. A rap burglar, false media. We don't need it, do we?
It's fake, that's what it be to you, dig me. Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy.
As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punks can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks. Some perpetrate, they drink Clorox. Attack the black because I know they lack exact. The cold facts, and still they try to Xerox. The
the leader of the new school, uncool. Never played the fool, just made the rule. Remember, there's a need to get alarm. Again, I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to herd, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you, as you get up and dance at the LQ. With some denied defiant, I swing bolos. Then it clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the wax. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype.
Yo Chuck, they must be on a pipe, right?
Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend, it was static. I see their tape